Voici une question qui nous amène à réfléchir. Est-ce que Dieu éprouve toute personne avant de l'utiliser pour sa gloire? La réponse ne tardera pas. Elle nous sera donnée aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Je crois que vous allez remarquer que les questions auxquelles la Bible va nous répondre aujourd'hui sont très sérieuses. Ce qu'on va apprendre va être très utile pour ceux qui désirent sincèrement servir Dieu. Voici les questions. Est-ce que ce sont nos bonnes œuvres qui nous justifient devant Dieu? Est-ce que notre foi produit des bonnes œuvres? Est-ce que Dieu met notre foi à l'épreuve de temps à autre? Devons-nous obéir quand Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on ne comprend pas? Est-ce que les trois personnes de la Trinité avaient planifié notre salut dans l'éternité? Est-ce que ce qu'on fait doit démontrer la réalité de notre foi? Pourquoi est-ce que Dieu éprouve toute personne qu'il veut utiliser pour sa gloire? Est-ce qu'on doit être disposé à aller aussi loin qu'Abraham pour accomplir la volonté de Dieu? Ma prière à Dieu, c'est qu'il nous éclaire, qu'il nous fortifie pour l'accomplissement de sa volonté concernant ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Premièrement, prions. Seigneur, fais-nous comprendre ce que c'est des bonnes œuvres à tes yeux, ce que c'est d'être disposé à aller aussi loin qu'Abraham pour faire ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, fais-nous comprendre tes grandes vérités. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Je me rappelle la première fois que j'ai étudié les grandes vérités qui illustrent la mort de Christ à la croix dans ce chapitre, c'est-à-dire le 22e chapitre du livre de la Genèse. Le récit de ce chapitre, chers amis, est très touchant. Nous voyons que ce n'est pas seulement la naissance d'Isaac qui est une image de Christ, mais aussi le sacrifice d'Isaac raconté dans ce chapitre. Dans son épître, Jacques dit une chose qui, aux yeux de beaucoup, contredit d'autres passages de la Bible, du moins semble contredire. Le verset le voici. Jacques, chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Cependant, Paul affirme ceci dans Romains, chapitre 4, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Qui a raison? Jacques ou Paul? Je réponds qu'ils ont tous deux raison. Paul et Jacques parlent de la même chose. Jacques parle des œuvres que produit la foi, pas des œuvres de la loi. Et Paul parle de la justification devant Dieu. Paul se réfère à un verset du 15e chapitre du livre de la Genèse, alors qu'Abraham en était à ses premiers pas de sa marche par la foi. Dieu connaissait son cœur, et Dieu vit qu'Abraham le croyait. Donc, Dieu lui a imputé sa foi à justice. Cependant, il a trébuché au cours de sa marche, et je pense que ses voisins ne percevaient pas toujours qu'Abraham était un croyant. Mais le jour où il a amené son fils afin de l'offrir en sacrifice sur l'autel, même des cœurs endurcis comme ceux des Philistins ont vu les œuvres d'Abraham. Donc, Jacques pouvait dire qu'il a été justifié par ses œuvres. Cela se produisit lorsqu'il offrit Isaac. Vous vous posez peut-être la question, a-t-il vraiment offert son fils sur l'autel? La réponse est non, mais il était disposé à le faire. C'est ce geste dont parle Jacques, car il a révélé qu'Abraham accomplissait les œuvres que produit la foi. Jacques met l'accent sur les œuvres de la foi que nous voyons dans le 22e chapitre du livre de la Genèse. Et Paul parle de la foi qu'avait déjà Abraham dans son cœur, au chapitre 15 du même livre, celui de la Genèse. Débutons notre lecture. Genèse, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» Le mot traduit ici, « mettre à l'épreuve », peut aussi avoir le sens de « tenter ». Cependant, c'est le sens de « mettre à l'épreuve » qui convient dans le contexte présent. Dans son épître, Jacques affirme que Dieu n'est pas tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne. Il arrive que Dieu mette notre foi à l'épreuve. C'est ce qu'il a fait ici avec Abraham. Dieu lui demande de faire quelque chose d'inhabituel et d'étonnant, étrange même. Poursuivons, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous verrez au verset du chapitre suivant, chapitre 1, que Sarah était âgée de 127 ans au moment de sa mort. Ce renseignement est intéressant puisqu'il nous permet de voir qu'Isaac n'était pas un jeune enfant au moment du sacrifice. Puisque Sarah avait 90 ans à la naissance d'Isaac, il en avait 37 au moment de sa mort. Donc, au moment des événements de ce chapitre, Isaac devait être dans la trentaine. Il devait avoir de 30 à 33 ans, l'âge de Jésus-Christ, au moment de son ministère public et de sa mort à la croix. Cet événement touchait une corde sensible dans le cœur d'Abraham ainsi que dans le cœur de Dieu. « Prends ton fils, ton unique. » Dans la Trinité, notre Seigneur Jésus a pris la position du Fils. Notre Seigneur Jésus est donc le Fils unique de Dieu. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Le Seigneur Jésus a affirmé que le Père l'aimait. « Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu a demandé à Abraham d'amener son fils unique, qu'il aime, au pays de Morija pour l'offrir en holocauste. De nombreux érudits pensent que le pays de Morija est l'endroit où fut construit le temple. C'est aussi l'endroit où fut sacrifié notre Seigneur Jésus-Christ, juste à l'extérieur des murs de la ville. Golgotha et l'endroit du temple ne devaient pas être bien éloignés l'un de l'autre, car les deux se trouvent sur la même crête. Autrefois, il y avait une route entre les deux, mais elle est coupée maintenant. Cette crête s'appelle Morija. Donc, plusieurs croient que Jésus-Christ fut crucifié sur la montagne où Abraham offrit Isaac. Isaac doit être offert en holocauste sur la montagne que Dieu indiquera. Jusqu'à ce que la loi mosaïque soit donnée, ce sont des holocaustes qui étaient offerts à Dieu. En donnant la loi mosaïque, Dieu a demandé des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation. Mais ici, l'holocauste est une image de la personne de Jésus-Christ. C'est l'offrande d'un sacrifice humain. Certains soulèvent une question morale. Ceci n'est-il pas mal? La réponse est oui. Moralement, c'est mal. Mais regardons cet événement de plus près. Si vous aviez rencontré Abraham et Isaac en route vers Morija et que vous aviez demandé à Abraham où il allait, il aurait répondu qu'il était en route pour offrir son fils Isaac en holocauste. Vous lui auriez demandé s'il savait que cela est mal. Il aurait répondu oui, et que c'est ce qu'on lui a toujours enseigné. Je sais que les autres nations, dont les Philistins, offrent des sacrifices humains. Mais ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Vous demanderez alors à Abraham pourquoi il le fait. Il aurait répondu que c'est ce que Dieu lui a demandé, même s'il ne comprenait pas la raison. Il aurait expliqué qu'il marche avec Dieu depuis 25 ans et que Dieu lui a toujours été fidèle et qu'il ne l'a jamais laissé tomber. Abraham aurait poursuivi en affirmant que ce que Dieu lui a demandé a toujours été ce qu'il y avait de mieux. Il aurait ajouté qu'il pense que s'il obéit à Dieu, celui-ci ressuscitera Isaac d'entre les morts. Abraham aurait été assuré que Dieu ferait cela. Donc, Abraham s'est mis en route avec son fils Isaac. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham se mit en route, amenant avec lui son fils Isaac et apportant le bois nécessaire pour faire l'Holocauste. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Le voyage dura 3 jours. Notez que c'est le troisième jour qu'Isaac fut rendu à Abraham par une sorte de résurrection. C'est ainsi qu'Abraham a perçu les événements. C'est comme si Isaac avait passé par une sorte de résurrection, puisque Dieu, qui l'avait demandé en sacrifice, ne laissait pas Abraham aller jusqu'au bout, mais fournit un substitut. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Les choses se passeront entre le Père et le Fils, entre Abraham et Isaac. À la croix, Dieu n'a pas impliqué l'homme. Les ténèbres ont duré 3 heures à partir de midi et personne ne put travailler. La croix était devenue l'autel sur lequel l'agneau de Dieu ôtait les péchés du monde. Cette transaction, le paiement de la rançon, se fit entre le Père et le Fils. L'homme fut laissé à l'écart. Il ne participe pas à quoi que ce soit. Nous voyons la même chose ici. Tout se déroule entre Abraham et son fils Isaac. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le feu ici représente le jugement. Le couteau représente l'exécution du jugement, du sacrifice. Versets 7 et 8. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Plusieurs vont dire qu'Abraham a vu un bélier retenu dans un buisson par les cornes et qu'il l'a offert en Holocauste. Nous voyons cela au verset 13. Lisons-le. « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Certains font remarquer qu'Abraham a dit que Dieu pourvoirait lui-même un agneau. Mais que c'est un bélier que Dieu a pourvu. Il y a une distinction entre un agneau et un bélier. Ce n'est qu'environ 2000 ans plus tard qu'un agneau fut fourni alors que Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste a clairement identifié l'agneau fourni par Dieu pour l'Holocauste. Il est important de noter ce détail à ce moment-ci, car Abraham est sur le point d'offrir son fils en sacrifice sur l'autel. Isaac ne comprend pas encore ce qui se passe. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Isaac n'est pas un jeune garçon. Un enfant qu'Abraham doit attacher. Isaac est un homme, et il aurait probablement pu l'emporter sur Abraham s'il y avait eu une lutte entre ces deux hommes. Il fait cela en obéissance à son père, tout comme le Seigneur Jésus alors qu'il fut crucifié. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Père. Propos rapporté ici par l'évangéliste Luc, chapitre 22, verset 42. Jésus est en route vers la croix pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons une belle image du sacrifice de Christ dans ce 22e chapitre du livre de la Genèse. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Si nous avions été là, nous aurions probablement demandé à Abraham s'il allait vraiment égorger son fils, car il semblait que Dieu le permettait. Cet homme aurait certainement répondu oui. Si nous lui avions demandé s'il ne pensait pas que c'était mal, il aurait répondu qu'on lui avait enseigné cela, qu'il ne comprenait pas la requête de Dieu, mais qu'il avait appris à obéir à Dieu. Coûte que coûte. Abraham vit une crise majeure. En fait, Abraham avait déjà été mis à l'épreuve par Dieu au cours de 3 crises. Ce fut tout un exercice pour le faire grandir spirituellement. Premièrement, Dieu lui a demandé de quitter sa famille en Ur de Chaldée. Ce fut la première grande épreuve. Il n'a pas obéi parfaitement au début, mais il s'est finalement séparé de sa famille. Ensuite, vint l'épreuve avec Lot, son neveu. Il aimait Lot, puisqu'il lui a permis de le suivre. Un jour, ils ont dû se séparer, et Lot est allé vers Sodome. Puis, il dut se séparer d'Ismaël. Il avait prié Dieu pour qu'Ismaël vive devant sa face, mais finalement, il dut le chasser avec Agar, la mère du garçon. Maintenant, c'est la quatrième et la plus grande des épreuves qu'Abraham subit. Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Abraham ne comprend certainement pas toutes les raisons de Dieu. Dieu lui avait promis une postérité en Isaac, une descendance nombreuse. Il croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac des morts. Abraham est disposé à faire le sacrifice. C'est pourquoi, dans son épître, Jacques a pu écrire qu'Abraham fut justifié par les œuvres alors qu'il a offert son fils. En fait, l'ange de l'Éternel est intervenu avant le moment fatal. Versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Comment l'ange sait-il qu'Abraham craint Dieu? Il le sait par ses actions, par ses œuvres. Avant, c'était par la foi. Maintenant, Dieu voit votre cœur. Il sait si vous êtes hypocrite ou non. Cependant, votre voisin et vos amis ne le savent pas. Ils peuvent le voir seulement par vos œuvres. C'est pourquoi Jacques peut affirmer que la foi sans les œuvres est morte. Une véritable foi produit des fruits. Donc, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Laissez-moi vous dire que Dieu va éprouver toute personne qu'il appellera, sauvera et utilisera. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham et Dieu éprouve les siens encore aujourd'hui. Ces épreuves nous sont envoyées afin d'affermir notre foi et de nous affermir dans les voies de Dieu et nous rendre utiles à son service. C'est la leçon importante à tirer de ces événements. Abraham subit maintenant son ultime épreuve, et Dieu n'aura plus besoin de lui demander quoi que ce soit par la suite. Dieu arrêta le bras d'Abraham. Lisons verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du jardin d'Éden jusqu'à la mort de Christ sur la croix, la Bible nous a toujours enseigné le principe de la substitution. L'animal sacrifié fut toujours une image de Christ, notre substitut. Dieu n'a jamais autorisé les sacrifices humains, mais lorsque son Fils est venu dans le monde, il a donné sa vie à la croix pour nous. Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Citation de Romains chapitre 8, verset 32. La croix est devenu l'autel sur lequel l'agneau de Dieu a ôté les péchés du monde. Poursuivons notre lecture. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Comme je l'ai déjà dit, de nombreux érudits pensent que sur cette même crête, Abraham a offert son fils. Le temple fut construit et Jésus-Christ fut crucifié. C'est merveilleux de voir cela. Abraham appela le lieu Yahvé-Jiré, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. C'est merveilleux car c'est l'endroit où Dieu est intervenu en sa faveur. Versets 15 et 16. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Une petite minute, j'ai une question. Je vais interrompre la lecture de ce texte. Est-ce qu'Abraham a sacrifié son fils, oui ou non? Non! Dieu, cependant, dit, « Parce que tu as fait cela. » Voyez-vous, mes amis, Abraham est allé suffisamment loin afin que nous puissions, que tous puissent et que même Dieu puisse voir qu'il était disposé à sacrifier son fils. Cependant, Dieu connaissait le cœur d'Abraham et c'est pour nous qu'il a fait cette démonstration. Donc, Dieu lui a imputé sa foi à justice. Abraham fut justifié par la foi, mais ses œuvres l'ont justifié devant les hommes. Elles ont démontré la réalité de sa foi. Poursuivons, chers amis, et terminons notre lecture pour aujourd'hui. Versets 17 et 18. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant et en méditant les textes de Genèse chapitre 22, verset 18, jusqu'à chapitre 23 du livre de la Genèse, verset 20.
Merci, Régent, pour ce précieux enseignement. Je me demande comment je réagirais, moi, si Dieu me demandait autant de choses qu'il en a demandé à Abraham. Personnellement, je connais personne à qui Dieu a demandé d'immoler son fils. On a vu aujourd'hui qu'Isaac était une image de Jésus. Puis Abraham était prêt à l'immoler. Et puis, il l'a pas fait, Dieu l'a empêché. Le seul sacrifice vivant que Dieu a vraiment voulu sur cette terre, c'est celui de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Puis Jésus a fait un peu comme Isaac, qui était une image de lui. Il a laissé son père le conduire, il a fait la volonté de son père, puis il s'est laissé crucifier sur une croix pour payer pour mes péchés, pour tes péchés. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham, puis il éprouve ma foi, il éprouve ta foi. C'est comme ça qu'il nous a fermés dans ses voies, qu'il nous rend utiles à son service. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais parfois je suis éprouvée sans savoir ce à quoi Dieu est en train de me préparer. Et je mets en oubli les fois précédentes où il l'a fait, il a accompli sa volonté. Je me rappelle une période d'environ 2 ans où je me suis sentie seule pour faire face à mes épreuves. Je me sentais abandonnée même de mes proches. Puis soudain, ça a été le début d'un ministère que Dieu me confiait, d'aller dans toutes sortes d'endroits publics pour rendre témoignage de ce que Dieu avait fait pour me donner la vie éternelle, pour que d'autres gens puissent connaître son amour et recevoir le cadeau de la vie éternelle comme moi je l'avais reçu. Alors si t'es un enfant de Dieu et que t'es présentement dans le creux de la vague, dans une épreuve difficile, n'oublie pas de regarder à Jésus, de mettre toute ta confiance en lui, sachant qu'il nous délivre toujours de l'épreuve, en son temps, et sachant qu'il t'émonde pour que tu portes encore plus de fruits pour sa gloire. Sais-tu ce que ça veut dire, émonder? Moi, je ne le savais pas avant, mais on m'a expliqué. C'est écrit dans la parole que Dieu, celui qui porte du fruit, ben Dieu l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors, quand on émonde, on arrache des mauvaises branches à un arbre. Alors, souvent, Dieu a besoin d'arracher des mauvaises branches à moi pour que je porte plus de fruits pour sa gloire. Alors, perds pas courage. Dieu est en train de te façonner pour accomplir des choses merveilleuses à travers toi. Tu vas voir. Tu portes déjà du fruit. Alors, il va couper les branches qui sont pas utiles. Là, il va sortir des petits bourgeons, puis tu vas porter des fruits que tu n'aurais jamais pensé pouvoir porter. Des fruits qui vont servir à la gloire de Dieu. Alors, tu souffres en ce moment, mets ta confiance en Dieu. Laisse-le t'émonder. Laisse-le couper les choses qui sont péchées en toi, les choses qui lui déplaisent. Puis il va en ressortir des fruits extraordinaires, des fruits excellents, des fruits délicieux pour ton Dieu. Ce Dieu créateur qui t'a créé et qui t'aime d'un amour éternel.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.